Abraham Lincoln est sans aucun doute le personnage le plus respecté des Américains, le président le plus honoré, l'homme le plus exemplaire que l'on a à la mémoire quand on pense au président des États-Unis. Et quand on pense à Abraham Lincoln, on imagine facilement la vie, une vie de succès de cet homme. De cet homme qui est parti de la cabane de bûcheron de ses parents pour arriver jusqu'à la Maison Blanche. Un exemple type d'un succès extraordinaire. Mais quand on y regarde de plus près, la vie d'Abraham Lincoln n'est pas une suite de succès les uns derrière les autres. Loin de là. Et je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quoi ressemble la vie d'Abraham Lincoln. 1832, il perd son travail. 1832 encore, il perd aux élections de l'Illinois pour être au gouvernement. 1834, il fait faillite dans ses affaires. 1835, il est élu au gouvernement de l'Illinois. 1835 encore, sa fiancée meurt. 1836, il fait une dépression nerveuse. 1838, il perd aux élections dans son État. 1842, il perd aux élections pour le Congrès. 1848, il est élu au Congrès. 1849, il est rejeté pour participer au gouvernement. 1855, il perd les élections au Sénat. 1856, il perd les élections comme vice-président des États-Unis. 1858, il perd les élections au Sénat de nouveau. 1860, il est élu président des États-Unis. Ce n'est pas une suite de succès les uns après les autres. Échecs, portes fermées, portes fermées, portes fermées, portes fermées les unes après les autres. Et cependant, nous regardons cet homme comme ayant une vie exemplaire, de la cabane de bûcheron jusqu'à la Maison Blanche. Mais sa vie est pleine, pleine de portes fermées. Nous avons aussi dans nos vies des portes fermées. Et j'aimerais prendre quelques exemples bibliques de serviteurs de Dieu qui ont été confrontés à des portes fermées, tous serviteurs de Dieu qu'ils étaient. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, nous est rapporté ce qui est arrivé à l'apôtre Paul au cours de ses voyages missionnaires. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, je vous propose de suivre avec moi la lecture à partir du verset 6. Acte 16, verset 6, il est écrit ceci. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'apôtre Paul est dans l'Asie, que nous appellerons aujourd'hui la Turquie. Il a visité les églises qu'il connaissait, qu'il avait déjà fondées précédemment. Et le texte nous dit que le Saint-Esprit l'a empêché d'annoncer la parole en Asie, qui est la partie ouest de la région où il se trouve. Et puis, il est question de la Phrygie, qui est au nord, il n'y va pas non plus. Et puis, il est question de la Galatie, au nord-est, là non plus. La Bithynie, au nord. Et le texte nous dit que l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. La Mysie, vers l'ouest, non plus. Et Paul a dû se dire, mais où est-ce que je dois aller maintenant? Dieu a fermé toutes les portes. Où vais-je? Alors il va finalement à Troas, se demandant où le Seigneur veut le conduire. Et c'est là que l'apôtre Paul va avoir cette vision, où le Macédonien va plaider pour qu'il passe en Macédoine, pour qu'il vienne en Europe. Il semble que Paul n'a pas pu aller en Bithynie parce que Pierre semble être à cet endroit-là, à cette époque. Et le Seigneur sait qu'il faut mieux laisser ces deux personnalités, ces fortes personnalités, travailler dans des ministères différents. Dieu avait fermé les portes, et quand Dieu ferme les portes, nous nous demandons, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand Dieu ferme toutes les portes, où est-ce que nous devons aller? Les exemples sont nombreux, montrant dans les Écritures à quel point Dieu parfois ferme les portes et semble plus fermer de portes qu'il n'en ouvre. Pensez à Joseph. Joseph, vendu par ses frères, porte fermée. Joseph déporté en Égypte, porte fermée. Joseph calomnié et mis en prison, porte fermée. Joseph est oublié par ses amis et il reste en prison pendant des années, porte fermée. Il faudra attendre des années avant que Joseph ne soit invité au poste de premier ministre en Égypte, bras droit de Pharaon. Porte fermée, porte fermée, porte fermée de tous côtés. Pensez à Moïse. Moïse pense avoir devant lui une carrière extraordinaire. Il sait que Dieu a besoin de lui pour délivrer son peuple. Et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est tuer un Égyptien. Il doit fuir, porte fermée. Et pendant 40 ans, Moïse va être dans le désert. Pendant 40 ans, cette porte va être fermée pour lui. Au point que Moïse en conclut que cette porte restera fermée jusqu'à la fin de sa vie. Porte fermée. Finalement, Dieu va ouvrir cette porte. C'est effectivement par lui, mais pas selon son plan, que le peuple sera délivré de l'Égypte. Mais la porte la plus fermée est encore à venir. Il va pendant 40 ans dans le désert conduire le peuple de Dieu pour l'amener dans la terre promise. Et à la porte de cette terre promise, Dieu lui dit « Non, la porte est fermée pour toi ». Reprenez avec moi ce texte dans le livre du Deutéronome au chapitre 3. Deutéronome chapitre 3, au verset 25, il est écrit ceci. C'est Moïse qui plaide et qui dit à Dieu « Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes, le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, il ne m'écouta point. L'Éternel me dit « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du mont Pisga, porte tes regards à l'occident, au nord, au midi, à l'orient, contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. » Porte fermée. Et quand Dieu ferme une porte, mes amis, elle est fermée. Pendant des dizaines d'années, Moïse a espéré de pouvoir voir ce pays, ce bon pays, le pays promis. Et quand il est au bord du Jourdain, Dieu lui dit non. La porte est fermée pour toi. Dans le livre Jésus-Christ, je trouve ce paragraphe. Si Dieu a exclu son serviteur de la terre de Canaan, c'est pour nous donner une leçon que nous ne devons jamais oublier, à savoir qu'il exige de nous une stricte obéissance et que l'homme doit prendre garde à ne pas s'attribuer la gloire qui revient au Seigneur. Mais il n'avait ni oublié ni abandonné son serviteur. Le Dieu du ciel connaissait ses souffrances. Il avait pris note de tous les actes de fidélité qui avaient caractérisé sa longue vie d'épreuves et de luttes. Au sommet du Pisga, il appela Moïse à un héritage infiniment plus glorieux que celui de la Canaan terrestre. Oh, je peux imaginer la douleur de Moïse qui a tellement espéré voir le pays promis. Et Dieu lui dit non. Un non difficile à recevoir. Et Moïse veut plaider avec Dieu. Et Dieu lui dit « Ne me parle plus de cette affaire. Moïse, je ne veux plus t'entendre me parler de ça. C'est clair. » Mais Moïse ne savait pas que derrière cette porte fermée, il y avait une porte grande ouverte extraordinaire. Depuis le sommet de la montagne, Dieu va lui donner de voir le pays, mais de le voir avec les yeux d'un visionnaire. Et Moïse, avant de fermer les yeux dans la mort, va voir non seulement le pays, mais va voir toute l'histoire de ce pays, jusqu'au moment où dans ce pays va naître le Sauveur promis, jusqu'au moment où va mourir le Sauveur promis. Et au-delà de cette terre promise, sur la terre, Moïse va voir l'histoire du peuple de Dieu au travers des siècles à venir, l'histoire de l'Église. Et depuis le sommet du mont Pisga, Moïse va voir en vision le retour de Jésus. Oh, ce ne sera pas une surprise, il aura été lui aussi le voir sur le mont de la Transfiguration. Tout ce panorama du plan du salut sera déroulé devant ses yeux avant que Moïse ne ferme les yeux dans la mort. Mais Dieu avait pour lui une porte grande ouverte. La porte de la résurrection, la porte de la cité céleste s'est ouverte pour Moïse. Oh, si Moïse avait su, si Moïse avait su que le ciel allait s'ouvrir pour lui, au-delà de cette porte qui se fermait sur la terre promise, s'il avait su que le plan de Dieu était pour lui infiniment plus grand, infiniment plus sage, infiniment plus beau que ce qu'il avait lui-même prévu, si Moïse avait su. Mais nous ne savons pas non plus toujours. Et pourtant, par la foi, nous pourrions savoir. Dans le livre Jésus-Christ se trouve cette phrase que j'aimerais vous donner. Et si vous y réfléchissez bien, cette phrase peut changer complètement votre perspective de la vie chrétienne. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait être conduit s'il pouvait voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'il serve en qualité de collaborateur de Dieu. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait être conduit s'il pouvait voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'il serve en qualité de collaborateur de Dieu. Si nous pouvions voir la fin dès le commencement. Cette histoire de porte fermée sans cesse nous rappelle à quel point, lorsque Dieu ferme une porte, c'est une indication qu'il y en a une ouverte que nous ne connaissons pas encore. Et nous avons sans aucun doute, les uns et les autres, fait cette expérience de rencontrer dans notre vie des portes qui se ferment et qui se ferment les unes après les autres, que ce soit dans le domaine professionnel où nous ne trouvons pas de travail, où notre travail ne progresse pas, que ce soit dans le domaine familial où les difficultés parfois s'accumulent et les portes se ferment, que ce soit dans le domaine de la santé où la guérison n'arrive pas, où les solutions ne sont pas trouvées, que ce soit dans notre domaine purement personnel. Nous avons tous les uns et les autres vécu cette expérience de voir les portes se fermer les unes après les autres sur notre nez. Et nous nous demandons, Seigneur, où est la bonne porte? Lorsque le Seigneur ferme les portes, c'est à ce moment-là que nous commençons à chercher. Et lorsque nous cherchons, c'est à ce moment-là que le Seigneur peut nous conduire vers la porte ouverte, vers sa porte, dans son plan, dans son temps. L'apôtre Paul avait cherché longtemps. Il avait essayé dans toute la région où il se trouvait, à savoir où Dieu voulait le voir aller. Il a fallu une vision pour que cette porte s'ouvre à ses yeux. Et que dans cette vision, il voit cet Européen qui plaidait avec lui. Le texte emploie le mot « il a prié ». C'est le même mot que l'apôtre Paul va employer lorsqu'il va expliquer à quel point il a plaidé avec Dieu pour lui retirer la maladie qu'il avait dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12. C'est le même mot. Cet Européen plaide en vision avec Paul. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Une traduction un peu plus moderne du texte dit ceci pour Actes chapitre 16, verset 10. « La vision lui a donné la carte routière. » Il a fallu que Paul se casse le nez sur de nombreuses portes fermées avant de trouver la porte. Mais pour trouver la porte que Dieu avait ouverte, il a fallu une vision. Et c'est cette vision qui l'a conduit vers la mission. Et c'est probablement là la clé de la porte ouverte dans notre existence. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, vivent cette expérience de la porte fermée, où leur vie n'avance pas, où les choses piétinent, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la santé, dans l'éducation de leurs enfants, dans la religion, même dans leurs relations avec les autres. Beaucoup de gens dans le monde vivent cette expérience de la porte fermée. Ils ne savent pas qu'il y a quelque part une porte grande ouverte qui s'appelle le salut par la foi en Jésus. Ils ne le savent pas. Et pire que cela, cette porte n'est même pas attrayante pour eux. Ce n'est pas une porte dans laquelle ils se précipiteraient s'ils la découvraient, parce qu'elle n'est pas intéressante pour eux. Elle n'est pas intéressante parce qu'elle n'est pas révélée à eux dans une vision. Oh, je ne parle pas de cette vision surnaturelle comme Paul l'a eue. Vous l'entendez bien. Je parle de cette compréhension intérieure de ce à quoi Dieu nous appelle. Une vision d'une longue perspective dans notre vie. C'est cette vision qui va ouvrir la porte que Dieu a en réserve pour les uns et pour les autres. Pas de vision, pas de mission, pas de porte ouverte. Et si les gens de ce monde ne voient pas la porte ouverte, c'est parce qu'en réalité ils cherchent des portes pour satisfaire leurs plans, leurs ambitions, leurs envies, leurs objectifs. Ce ne sont pas des portes par lesquelles ils cherchent à accomplir une mission pour le Seigneur. Dieu ouvre les portes lorsque nous cherchons quelle est sa porte, pour qu'en passant par cette porte, il nous emploie à son service. Les portes que Dieu ouvre sont des portes de service. Mais il peut nous arriver, comme nous allons voir quelques exemples bibliques, il peut nous arriver de nous satisfaire d'une porte fermée et de nous endormir devant la porte fermée. Prenez avec moi le livre de Jonas. Jonas, une histoire incroyable, extraordinaire, mais très parlante pour nous aujourd'hui. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, au verset 4, il est dit ceci. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Dieu est en train de fermer la porte. Et Jonas, apparemment la paix dans le cœur, va s'installer au fond du navire et il s'endort, nous dit le texte, profondément. Jonas dort profondément devant la porte que Dieu est en train de fermer. Et il se peut que dans notre existence, que nous soyons satisfaits de nous endormir devant la porte que Dieu a fermée. Cette porte que Dieu fermait devant Jonas, c'était la porte de la fuite. Mais Jonas s'endort profondément, paisible. Il est le seul qui, dans ce navire, est en paix. Et il est le seul qui ne devrait pas l'être. Prenons un autre exemple d'une porte fermée. Prenez avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 37. Vous connaissez le contexte. Jésus est à Gethsémané. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Dieu, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Une porte se ferme devant Jésus. Il voudrait qu'une autre porte s'ouvre. Il n'est pas en paix devant cette porte fermée. Dans le livre Jésus-Christ de nouveau, permettez que je vous lise ces quelques phrases qui traduisent l'état d'esprit de Jésus devant cette porte fermée, la mort. Jésus s'éloigna à quelque distance, tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond que son esprit frissonnait. Jusqu'ici, il avait intercédé pour les autres. Maintenant, il aurait voulu trouver un intercesseur pour lui-même. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le silence régnait dans le ciel. Si les humains avaient pu voir l'étonnement et la douleur silencieuse de l'armée angélique, alors que le Père retirait de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière, d'amour et de gloire, il comprendrait mieux combien le péché lui est odieux. Aucune issue ne s'ouvrait devant le Fils de Dieu. La porte est fermée. Et Jésus ne voit pas plus loin que la mort, là où il en est. Il ne vit pas cette expérience-là dans la paix de Jonas. Il est pris par des angoisses mortelles à Gethsémané. Notez en passant que la paix que nous ressentons n'est pas nécessairement la garantie que l'on a fait le choix selon la volonté de Dieu. Nous serions peut-être tentés de penser ainsi. Mais cet exemple biblique nous montre que ce n'est pas le cas. La paix que nous ressentons devant une porte fermée n'est pas nécessairement la garantie que nous avons fait un choix selon la volonté de Dieu. Et les uns et les autres, vous avez sans aucun doute déjà vécu cette angoisse de la porte fermée. Cette angoisse, cette recherche, au-delà de la porte fermée, où est la porte ouverte que Dieu a en réserve quelque part? Pour Jésus, cette porte fermée, et qui restera fermée, est en réalité le seul passage qui le conduira au tombeau ouvert. C'est en réalité le seul passage qui le conduira à ouvrir non seulement le salut à tous les hommes, mais aussi la gloire qu'il avait perdue. Cette porte fermée va ouvrir pour le monde l'espérance et le salut par Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus va ouvrir pour vous et pour moi une porte que personne ne peut fermer. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais vous inviter à suivre avec moi la lecture de ce passage dans l'Épître de Paul aux Hébreux au chapitre 6. Il est dit au verset 19 « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Le Christ a ouvert cette porte pour nous dans le ciel, mais il a fallu qu'il vive l'expérience de la porte fermée. Ainsi, nous avons aujourd'hui une assurance, une espérance. Pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel, il a ouvert la porte. Et si toutes les portes de ce monde se ferment, il est une porte ouverte dans les cieux que personne ne peut fermer. Cette porte, il l'a ouverte lui-même, par son sacrifice. Qui donc veut y entrer? Maintenant, si nous avons les uns et les autres accepté que le Seigneur soit celui qui nous précède et qui ouvre devant nous les portes, nous avons accepté qu'il ouvre la porte du salut. Nous acceptons à ce moment-là qu'il ouvre aussi toutes les portes sur cette terre. En son temps, dans son plan, les portes fermées et les portes ouvertes de Dieu sont toujours garanties qu'il nous conduit. Et nous pouvons ne pas savoir la fin dès le commencement. Par la foi, nous pouvons savoir que celui qui, au prix de sa vie, a ouvert la porte pour nous du salut, ne fermera aucune porte sur cette terre dont nous aurions besoin qu'elle soit ouverte. Ainsi, sachant que le Seigneur a ouvert pour nous une porte si importante dans les cieux, que les portes se ferment ou qu'elles s'ouvrent dans cette vie, n'a pour nous pas autant d'importance. Maintenant que la porte du salut est ouverte pour chacun d'entre nous et que nous y sommes entrés, toutes les autres portes de cette vie, qu'elles soient ouvertes ou qu'elles soient fermées, ne sont jamais que des étapes de service. En attendant que le Seigneur lui-même vienne et ouvre pour nous les portes de la cité céleste, ce jour-là, il descendra du ciel et nous dira « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Amen.